Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on a fait un petit travail de synthèse à partir des ateliers qu'on va vous présenter pour soulever les questions. Et c'est Faïza et Samuel qui vont reparcourir les différents exposés qu'on a traversés.
Vous m'entendez, oui?
Oui, parfait.
Super. Et donc, effectivement, on s'est attaché à relever pour chacun des ateliers quelles étaient les questions et les contours que posent les thèses du réseau salariat à travers les différentes interventions. Et donc, notre proposition, c'est qu'on en fasse un relevé et que Bernard Friot, pour le coup, tu puisses intervenir soit après l'énonciation de toutes les questions, soit au fur et à mesure, pour qu'on puisse un peu voir ce qu'on fait de ces questionnements-là pour la suite. Pour les personnes qui l'ignorent, au sein du réseau salariat, il y a plusieurs groupes de travail, notamment un groupe de travail qui s'appelle Réseau Salariat International et qui a pour objet de creuser un peu toutes ces dimensions-là. Pour un moment, il n'y a pas eu énormément de production, mais c'est justement l'occasion d'amener des pistes de travail pour ce groupe et pour l'ensemble de l'activité du Réseau Salariat. Je ne sais pas si Sam, tu veux commencer, puis après je poursuis ou l'inverse.
J'attaque. Alors, le premier atelier de ces automnales a été animé par Adrien Thomas et nous parlait du contexte historique international lors de la création de la sécurité sociale. Et je dirais, alors c'est un résumé assez subjectif et on en fait ce qu'on veut, mais je dirais que l'intervention d'Adrien nous a posé, à mon avis, deux questions suivantes qui sont d'abord… Est-ce qu'on peut faire un récit de la mise en place de la Sécu qui se base que sur la seule volonté de la classe ouvrière? C'est un peu comme ça qu'Adrien a présenté les choses. Et je pense que certains d'entre nous se posaient la question de savoir si ce n'était pas cette question-là. Et alors la deuxième question qui a émergé assez rapidement était de savoir quelle était la part des coloniaux, enfin, la part coloniale dans et la, décolo, enfin la décolonisation dans l'avènement de la Sécu et un peu plus loin que ça, qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage, comment se tisse l'héritage colonial, l'économie coloniale et la sécurité sociale. Voilà, je crois. C'est évidemment toujours partiel et parcellaire, hein. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres questions qui se posent.
Il y en avait notamment une concernant le fait que c'est aussi l'époque où toute une série de traités internationaux sont élaborés ou sont améliorés ou sont modifiés. Et donc la question c'était quels impacts avaient ces traités internationaux dans ce qui s'est passé en France et en Belgique autour de la période de la création de la sécurité sociale. Et ça, ce sont d'après ce que je me souviens, c'était une piste à creuser pour pouvoir poser plus clairement ce qui se passait. Je ne sais pas si on poursuit toujours sur la synthèse. Bernard, peut-être que tu pourrais nous dire ce que tu préfères, si tu préfères interagir sur chaque question ou si tu préfères interagir à la fin.
Attends, je suis… Moi, ça va, on m'entend ou bien pas?
Très bien.
Ah bon, ça va, on m'entend, d'accord. Oui, ben, je peux intervenir peut-être au fur et à mesure, mais ce sera, je crois, en général, très bref, parce que heureusement que ce groupe international a été créé. Moi, je n'ai pas grande compétence dans ce domaine, et donc mes réactions ne seront pas forcément très, très informées. En tout cas, sur les questions d'origine de la sécurité sociale, le rôle des traités internationaux, le rôle de la classe ouvrière, la part coloniale, il y a sur un point sur lequel je peux répondre, c'est classe ouvrière, disons, hein. Les traités internationaux ou les organisations comme l'OIT, je ne sais pas quel est leur impact sur la naissance de la Sécu. Je parle de la naissance, hein, parce que bon, la déclaration de Philadelphie a pu avoir des effets ensuite, bien sûr, mais l'origine de la Sécu dans la classe ouvrière, moi, j'en suis pas très convaincu. Hein. Souvent, on remonte aux mutuelles de résistance ouvrière, par exemple, hein, au fondement de la sécurité sociale. Non, d'ailleurs, quand on parle de régime bismarckien, s'agissant de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, certes, Bismarck réagit à une montée en puissance du Parti socialiste allemand et à l'organisation ouvrière, mais l'initiative qu'il prend n'est pas du tout ouvrière. Hein, et s'agissant de l'histoire française, là, ça me paraît tout à fait clair, hein, que la classe ouvrière va intervenir fortement au lendemain de la libération surtout, mais en subvertissant la sécurité sociale existante. Hein, son rôle dans la création de la Sécu est très minoritaire. La Sécu est largement une initiative patronale. Bon, sur la part coloniale, et donc pas sur les tomes qui nous intéressent ici, l'international, je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. Personnellement, moi, j'ai aucune compétence, je dois le reconnaître.
À la suite de ce premier atelier, on a eu une présentation de Bruno Bourin. J'ai de l'écho. Et cette présentation concernait la question des échanges inégaux. Et il nous a amené quelques notions qui nous paraissaient vraiment importantes, notamment celle de la dégradation du terme de l'échange. Donc, les questions qui se posaient autour de cette présentation, c'était... quelles frontières, quel type de frontières ça pouvait amener si jamais on voulait penser que c'était salaire à vie. Et donc, concernant la question de la frontière, il y a la question du protectionnisme qui se pose, c'est-à-dire, imaginons une zone qui se pose en salaire à vie, mais quel rapport elle peut avoir avec le reste du monde qui ne l'est pas. Toutes ces questions sur la frontière et le protectionnisme nous paraissaient importantes à creuser aussi dans le cadre de notre travail au sein du réseau salarial.
Ben, ma réaction est la même. Hein, effectivement, c'est un terrain qu'il faut qu'on travaille. Et sur lequel nous sommes, je pense, assez faibles. Chaque fois que je suis confronté à cette question en fin de débat, je botte en touche ou je mets en garde contre un protectionnisme qui serait qui fait comme si nous pourrions devenir souverains sur le travail à travers des thématiques du type salaire à la crise, etc., sans être devenus souverains sur les entreprises mêmes. Et donc, si l'on est souverain sur les entreprises mêmes, du territoire dans lequel s'opère cette souveraineté, les relations internationales sont plutôt positives. Et plutôt que de dire qu'il faut se mettre en garde contre elles, les entreprises dont nous aurons pris la propriété et le enfin le, la direction du travail concret ont des filiales à l'étranger actuellement, parce que nos entreprises ont des filiales à l'étranger, ben, ces filiales vont être dégagées, disons, de leur dépendance vis-à-vis de l'entreprise mère, parce que nous serons cohérents avec ce que nous sommes, bien sûr, et du coup, ça va susciter des lieux de liberté aussi économiques à l'extérieur. Quant aux entreprises étrangères dont nous aurons pris possession des filiales françaises, ça ne va pas d'un coup comme ça supprimer les relations économiques entre ces entités, et nous serons en meilleure position pour finalement susciter des relations économiques autres avec ces entreprises étrangères. Nous étions jusqu'ici des filiales. Quant à la libre circulation des personnes, là, il faut au contraire insister sur son importance et sur sa fécondité. Hein. Les droits des travailleurs sur lesquels seront fondés cette souveraineté sur le travail, ce sera des droits, non pas pour des nationaux, mais pour des résidents. Hein, et donc ma réponse est plutôt une réponse sur l'importance de l'internationalisme et de la du gommage des frontières, en tout cas s'agissant des circulations de personnes. Circulation de capitaux, c'est un faux problème à mon avis, hein, puisque quand on regarde la balance des capitaux, par exemple s'agissant de la France, les capitaux qui sont exportés à partir du travail fait en France sont à peu près dans la même quantité que les capitaux importés à partir du travail fait à l'étranger. Donc nous n'avons pas besoin, aucun pays n'a besoin fondamentalement d'importer ni d'exporter de capitaux. Donc à partir du moment où, enfin, dans chaque pays globalement, la valeur nécessaire à l'investissement est produite sur le territoire considéré, et donc c'est un faux problème. Nous n'avons pas besoin de capitaux étrangers, absolument pas. Nous n'avons pas besoin non plus de valoriser des capitaux à l'étranger. Cette logique-là peut parfaitement disparaître. Bon, mais encore une fois, moi je ne suis pas trop compétent dans tous ces champs-là. C'est tout un univers qu'il faut que nous travaillions.
Il y a, outre la question de l'échange de capitaux, il y a aussi la question des matières premières nécessaires et toute la question aussi de la sous-traitance telle qu'elle a été organisée. Les pays colonisateurs ayant organisé les zones colonisées en vaste domaine de sous-traitance spécialisée, bon, ces pays-là ne vont pas en sortir là comme ça tout de suite si on ne met pas en place des choses qui permettent de le faire. Et ça pose aussi la question de si on a besoin d'une matière première pour la production locale, comment faire en sorte pour ne pas participer à ce que Bruno appelait la dégradation des termes de l'échange. C'était un peu ça, je crois, la question. Je ne sais pas si Sam, tu peux en rajouter quelque chose?
Oui, comment les produits que nous exportons ont un prix de plus en plus élevé relativement aux produits que nous importons. Quand je dis nous, je parle de pays capitalistes avancés qui vont faire une prédation par ce biais-là, de la dégradation des termes de l'échange. Bon, encore une fois, je n'ai pas, moi, d'éléments suffisants pour fournir Enfin, je pense que notre réflexion à réseau salarial reste peut-être d'autres membres de ceux, de ceux qui sont là, ou de celles et ceux qui sont là dans notre séance là, cet après-midi, ont des choses à dire, hein, parce qu'ils y ont plus réfléchi que moi, par exemple. J'ai été très honoré que vous me demandiez comme interlocuteur, mais j'ai dit tout de suite à Faïsa que je... C'était pas du tout quand même beaucoup compétent pour la forme. Bon, alors je ne me défile pas, mais je crains que vous êtes déceptif.
Oui, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir dans les personnes qui sont présentes. C'est l'occasion. Non. Non, je ne vois personne qui veut réagir. Je pensais à Agathe et à Daniel, mais non.
Je vois que Sylvain G a fait une intervention par écrit. Peut-être pourrait-il la faire par oral.
Avec plaisir. Moi, je lis volontiers le message de Sylvain. Mais peut-être que Sylvain, ce serait peut-être même encore mieux si Sylvain, toi, tu voulais soumettre ta remarque, ta question. On est à ton écoute si ton micro fonctionne. Ah non, pardon, je vois que Sylvain est en écoute seul, il n'a pas activé le micro. Donc je lis ce que Sylvain écrit. Les filiales d'entreprises coopératives à l'étranger seront soumises au capitalisme, point de suspension.
Oui, hein, je... Encore une fois, nous faisons l'hypothèse d'une souveraineté dans un seul pays, ce qui est... Moi, j'ai un peu de mal à vrai dire de me situer dans cette logique. Je suis pas sûr du tout que ce soit possible dans un seul pays. L'exposé qu'a fait Bernard Duterme tout de suite... montre bien qu'on, enfin, là, on est dans une petite portion d'un grand pays, certes, dans une petite portion particulièrement dominée, mais tout ça reste extrêmement fragile. Et donc, est-ce qu'il sera possible de faire une expérience dans un cadre national, exclusivement? J'en sais rien. Puis, à vrai dire, j'ai un peu du mal de me projeter dans ce genre de questions, mais peut-être à tort. Hein. Mais cela dit, ces filiales qui continueront à avoir des liens économiques avec les coopératives ou les entités de type autre que capitaliste que nous pratiquerons, même soumis à une logique capitaliste, elles auront quand même plus d'atouts pour s'en libérer dès lors qu'elles auront avec leur ex-maison-mère des liens économiques plus égalitaires, je ne sais pas comment dire ça.
Alors, peut-être j'enchaîne sur l'atelier suivant, qui était l'atelier animé par Laura sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est un peu les mêmes questions. Donc, peut-être qu'on n'est pas obligé de revenir sur la question des frontières nationales. Et il y avait alors quand même la question des institutions qu'on pourrait imaginer pour les échanges internationaux. Ça a à la fois été abordé autour de la sécurité sociale alimentaire et également dans l'atelier suivant sur l'import-export et l'économie collaborative avec le reste du monde. Et donc voilà, il y a la question. Et alors peut-être, moi j'ai une autre, alors je ne sais pas comment, moi je suis très mauvais en économie, je vais utiliser des mauvais mots, mais il y a quand même la question de la définition même de la valeur pour des biens, des matières premières ou des choses qu'on ne produit pas chez nous et qui ont toujours été extraites selon des modalités coloniales. Et donc, quand bien même on imaginerait des échanges plus équitables, on n'a même pas vraiment d'outils. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On n'a pas d'outils pour élaborer la valeur d'échange de biens qui n'ont jamais été écrits autrement que sous la forme de relations corporelles. Et j'ajoute une remarque de Coutel qui propose qu'on crée une internationale des coopératives ou des coopératives multinationales.
Les coopératives nationales existent déjà. Les coopératives du Pays Basque ont une expansion internationale pour le meilleur et pour le pire. Elles ont à l'international des relations extrêmement discutables. Je pense à Tegoutel. Entreprises françaises qui dépendent de coopératives basques, pas basques espagnoles. Encore une fois, je suis un peu accablé parce que je le savais. Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être le discutant de cette automnale à laquelle j'ai participé comme auditeur très intéressé et comme contributeur. Et tu as annoncé l'élément suivant sur les institutions d'import-export, qui pourrait être en lien avec une sécurité sociale de l'alimentation, mais aussi il y a toute autre activité mise en sécurité sociale. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des camarades qui préconisent, qui ont réfléchi sur cette institution d'import-export, qui sont là et qui pourraient faire écho de façon plus valable que moi à cette nécessité auquel ont été confrontés les pays socialistes, par exemple. Les pays du bloc socialiste ont été confrontés à l'organisation de l'import-export, à des dispositifs spécifiques. Mais là encore, ma compétence est relativement limitée. Quant à l'évaluation de coûts, enfin de la valeur de biens qui ont été toujours sous-évalués parce que extorqués sur le mode colonial, là encore, je ne peux que constater la nécessité à réseau salarial que nous y travaillons.
Là, moi, je propose, puisque c'est la journée des Bernards, j'ai vu que Bernard Kettler était là. Donc peut-être que toi, Bernard, qui a réfléchi à l'import-export, est-ce que tu veux dire un mot ? Si tu nous entends et si tu es en capacité de parler.
Je suis en capacité de parler, vous m'entendez ? Oui. Voilà. Oui, je suis un peu circonspect. Je vais pas reprendre ce qu'on a dit lors de l'atelier import-export. Enfin, en deux mots, nous on fait l'hypothèse effectivement qu'on est une bulle fonctionnant une économie avec le salaire à vie, et on a réfléchi qu'est-ce que ça implique par rapport à un environnement international qui resterait dans le capitalisme. Notre conclusion principale, c'est qu'il faut qu'on ait un équilibre de la balance commerciale, c'est-à-dire que nos importations soient couvertes par nos exportations. C'est l'aspect essentiel. On est relativement libre sur nos exportations en fonction du mode de fonctionnement que permet le salaire à vie. On est beaucoup plus contraint sur nos importations. De par les importations, on les fait forcément au prix du marché. Et puis, il faut aussi que nos partenaires étrangers acceptent de commercer avec nous et de nous fournir les marchandises dont on a besoin, les minerais, etc. Le problème, c'est de trouver cet équilibre, sachant qu'on risque d'être dans une situation assez conflictuelle si en France, ou enfin, dans une bulle, on arrive à faire passer le salaire à vie, qui suppose, comme ça a été dit il y a quelques instants, certaine manière de récupérer la maîtrise de, d'entreprises étrangères qui sont sur notre sol, chose qui ne se fera pas simplement. Donc les grosses difficultés, c'est de parvenir à cet équilibre sans lequel on ne pourrait pas fonctionner. C'est un peu tout ce qu'on a présenté lors de notre atelier. Ce que je peux dire pour l'instant, s'il y a des questions, je veux bien essayer d'y répondre.
Merci beaucoup Bernard pour ce rappel. C'est aussi l'occasion de rappeler par quoi on est passé ces derniers mois, puisque initialement on était censé se voir pendant un week-end et finalement ce week-end s'est transformé en 3 mois d'épisodes. Donc je pense que ça fait pas tort de repasser à travers tout ça, quoi. Si ça vous convient comme ça. Et merci pour ce.
Merci peut-être que Laura aussi a des choses à dire sur cet aspect international de la SSA.
Laura, elle est seulement en micro.
Malheureusement, oui, c'est ça. Laura, elle est en écoute seule. Alors, juste peut-être pour celles et ceux, Sylvain, Laura et Vincent, qui est en écoute seule, le seul moyen, malheureusement, de nous rejoindre, c'est de vous déconnecter et reconnecter en acceptant de partager votre micro, si on veut pouvoir vous entendre. Voilà.
Donc Laura, tu n'as pas accès à un micro, non? J'essaye. Voilà.
Non, mais je vais redire ce que j'ai dit à l'écrit, mais c'est en fait on en a discuté pendant les ateliers. C'est que Bernard, tu dis que pour toi c'est évident qu'on pense la dimension internationale quand on pense aux thèses de réseau salariat. Moi, je trouve pas que ce soit si évident que ça, et je pense qu'on a un énorme travail à faire. À intégrer systématiquement cette dimension-là dans nos réflexions, dans nos échanges, dans nos prises de parole, quoi. Parce que peut-être dans ta tête à toi, c'est évident, mais je ne crois pas que ça l'est forcément dans nos têtes à nous, en tout cas pas dans la mienne. Enfin, maintenant, ça l'est plus, du coup. Enfin, moi, c'est ce que j'amenais lors de l'atelier, hein, et c'est pour moi, c'est la dimension nationale, c'est l'échelon national qui est, à mon avis, à questionner très fort, quoi. Et notamment dans le côté État-nation. C'est là où les interventions comme celle d'aujourd'hui, elles sont passionnantes, parce que je trouve qu'elles nous ouvrent l'univers des possibles, quoi. Avec la grosse limite qu'on a bien compris que c'était très fragile économiquement, mais en tout cas, à mon avis, il y a un vrai truc à creuser là de notre côté sur qu'est-ce qu'on fait de l'État, quoi. Parce que je trouve qu'on n'est pas clair avec ça. On dit que on kiffe la sécu parce que c'est pas l'État. Mais en même temps, on va pas assez loin, à mon avis, sur qu'est-ce qu'on propose du coup pour se passer de l'État, quoi.
Moi, je peux vous dire que la sécurité sociale de l'alimentation, elle arrive dans les réflexions en Belgique, donc il y a déjà une forme de diffusion internationale sur cette idée-là.
Alors. Et à la suite de ça, l'atelier suivant, c'était l'atelier qui était exclusif femmes. Et donc, nous avons eu…
Oui, Faïsa, je me permets, puisque tu parles de l'atelier exclusif femme, de te couper la parole, comme de juste, c'est qu'on a oublié un atelier, qui est celui d'Agathe, autour des expériences de socialisation en Argentine, le cas des Guarani. Je crois que, si je ne m'abuse, je vois que Agathe, tu es là, quoi. Alors, peut-être que tu pourras en dire de moi. L'exposé d'Agathe ressemblait à bien des égards à ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'était très intéressant. Aussi pour par rapport à la fois comment expliquer ça, c'est une remarque que Faïsa a faite à la fin, c'est un peu se poser la question de savoir si dans un contexte très 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 compliqué il fallait pas déjà se réjouir des petites victoires, tout ce qui était arraché au capitalisme c'était déjà bon à prendre, même si ça faisait pas nécessairement système ça permettait vraisemblablement pas d'instaurer un renversement total du paradigme de la socialisation. Donc ça, c'est un peu ce qu'on. Ça, je pense que c'est, ça, c'est plus une remarque qu'une question. Quoi. Et donc, il y a un peu ça, quoi. Il y a un peu. Bah, je sais bien que c'est des questions récurrentes, mais il y a la question de savoir par où on commence. Est-ce que les petits. Est-ce que les expérimentations mini, elles sont une étape vers le méta, ou est-ce qu'il faut. Ou ça vient forcément du méta. Enfin, voilà. C'est cette question-là qui est une question très, très récurrente à Réseau Salariat, mais qui est. Enfin, je pense que. Était à mon avis bien expliqué par Agathe avec l'exemple des Guarani. Et Agathe, je te passe la parole si tu veux.
Moi, si je retiendrai un seul élément, c'est juste sur internationalisme des idées, c'est-à-dire que la revendication de la figure de Murray Bookchin, on la retrouve également au Rojava. J'ai des militants de ma fédération qui sont allés au Chiapas à la première rencontre de femmes en 2018. Et du coup, en fait, c'est des idées et des figures qui circulent tant sur le même continent qu'à l'international. Donc voilà, c'est juste le point.
Et je plus vois ce que Dorothée disait avant, mais au rayon des nouvelles un peu réjouissantes, et ça c'est un peu de l'autosatisfaction, mais je veux dire, j'ai assisté à une réunion de VIP sur la sécurité sociale et alimentaire, où, ici en Belgique, où ils avaient invité des ministres et des gens, enfin, on était dans une réunion vraiment d'institutionnels. La personne qui présentait, c'est sûrement quelqu'un que Laura, toi, tu connais, mais qui ne vient pas du tout de Réseau Salariat. J'ai oublié son nom et qui a fait un exposé, à mon avis, très, très efficace et très puissant. Il était très fort à expliquer les idées. Et il faisait un peu la même chose que ce que tu viens de dire, Agathe, mais avec toi, Bernard. Donc, il y a comme une espèce d'idée de circulation des idées qui est, à mon sens, très réjouissante du point de vue de l'internationalisme, même si en termes d'internationalisme, la Belgique et la France, c'est encore des territoires pas très, très distants. Excuse-moi, dorénavant, on peut passer à l'atelier suivant, si tu veux, pardon.
Désolé, c'est mon enthousiasme. Donc on a eu la chance à l'atelier FRAM d'accueillir parmi nous Fania Noël, qui fait une thèse de doctorat en sociologie aux États-Unis et qui est une militante afro-féministe. Elle participe notamment au collectif qui s'appelle Nancy en France. Et donc, lors de cet échange, on a pas mal parlé, et ça m'a fait un peu écho aujourd'hui lors de la prise de parole de Bernard, de la question de l'identité comme type d'affirmation. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser dans le questionnement qui vient juste à l'esprit maintenant, c'est-à-dire cette capacité d'affirmation dans une identité qui s'est posée donc dans le cadre de la présentation de Bernard, pardon, qui concernait le zapatisme. Et bien, Fania l'a posée aussi dans le cadre des luttes afro-féministes comme étant quelque chose à ne pas négliger et à ne pas numériser et à ne pas mettre en symétrie avec une posture identitaire qu'on pourrait retrouver chez des dominants, quoi. Donc il ne s'agit pas du tout de la même chose d'après ce qu'elle racontait. Et la question aussi des rapports multiples de domination. Qu'en tout cas, on ne pouvait pas laisser penser un moment que la question féministe était, le mouvement féministe était univoque et unibloc. Il y a pas mal de contradictions à l'intérieur de celui-ci, et elle prenait par exemple, une femme qui milite en tant que féministe, et qui, pour pouvoir aller à ses réunions pour militer en tant que féministe, faisait garder ses enfants par une nounou noire sans se poser la question des rapports de domination dans ce cadre-là. Je ne sais pas si, Dorothée, tu veux rajouter quelque chose, parce que je crois que je commence un petit peu à fatiguer et je n'ai plus le reste en tête.
Non, c'était, enfin, il y avait ces questions de, effectivement, de délégation du soin et de, au niveau international aussi, de se dire que ça, c'est quelque chose qui est documenté maintenant, d'avoir le fait d'effectuer le travail ménager, faire effectuer le travail ménager par des femmes souvent racisées ici, ça veut dire que elles se retrouvent aussi dans la situation de sous-traiter leurs enfants et que ça se répercute au niveau international puisque des fois ça se passe dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est quelque chose qui, enfin oui, qu'on a un peu exploré. On a essayé de travailler la question du, enfin ouais, d'aborder la question du travail, justement du travail. Mais on va faire un compte rendu un peu plus détaillé pour les camarades, c'est en cours.
Oui, je me souviens aussi qu'il y avait la question du salaire. On avait amené l'idée que, donc dans le groupe femmes du réseau salariat, on a pas mal planché sur la question du salaire et des échelles de salaire. Et on a récemment produit un texte qui proposait comme finalité un salaire unique, sans que ça ne soit encore vraiment débattu. On se réjouit qu'on puisse en débattre collectivement. Et donc, on avait un peu amené cette question de est-ce que amener un salaire unique permettait aux femmes racisées de s'émanciper mieux qu'autrement. J'ai dit n'importe quoi, pardon. Et donc, la question, c'était, est-ce que le salaire unique permet une émancipation des femmes racisées? Et donc, la réponse était, ben, oui et non, c'est-à-dire que autant ça permet de gagner une certaine indépendance sur le plan financier, autant si par ailleurs, il n'y a pas de questionnement sur les autres modalités de rapport de pouvoir que celles du rapport économique, ben ça ne réglait pas tout à fait la question. C'était un peu aussi la conclusion à laquelle on était arrivé au sein du groupe femmes. Dorothée, je ne sais pas si tu veux compléter sur cette dimension-là.
Non, sinon dire que c'est, enfin oui, c'est quelque chose dont on débat beaucoup, quoi.
Moi, je peux faire un écho peut-être indirect à ce qui vient d'être dit, mais c'est peut-être aussi ce que j'ai dit dès le départ. Moi, je ne pense pas du tout que le salaire à la qualification personnelle, qu'il soit dans une hiérarchie de 1 à 3, qu'il soit unique, puisse de toute façon se mettre en place et réussir s'il n'est pas au service d'eux et s'il n'est pas servi par la maîtrise du travail aussi bien concret qu'abstrait par les intéressés et donc la souveraineté sur le travail concret dans l'entreprise qui suppose déjà un énorme travail dès maintenant, quoi, hein, pour conquérir des droits qui permettent de s'opposer aux directions dès lors que le travail concret proposé n'est pas conforme à ce que nous estimons être du bon travail, et puis le travail abstrait dans sa dimension de définition des lieux où ce qu'on produit, de ce qu'on produit, de l'investissement, etc. Si nous ne conquérons pas des maîtrises sur tous ces terrains-là, la seule maîtrise de nos vies par la sécurité d'un salaire à la qualification personnelle, ou un salaire à la qualification tout court, parce qu'il n'y aurait plus 50 qualifications, mais une seule, sera très. Enfin, aura peu de chance, à mon avis, d'aller au-delà des propositions de je sais pas de quoi, de sécurité dans un revenu de base, etc. etc. Fut-il élevé, hein, mais on reste dans la sécurité des personnes. Or, pour conquérir tout cela, je pense que, c'est pour ça que moi je crois que les batailles postcoloniales sont décisives dans la lutte de classe. C'est une des dimensions de la lutte de classe, où les batailles contre le patriarcat sont des dimensions de la lutte de classe. Je ne pense pas, hein, pour prendre l'exemple que donnait Faïza, qu'une société dans laquelle les femmes conquièrent une forme de présence dans l'espace de l'entreprise en sous-traitant des tâches domestiques demeurait l'apanage de femmes et de femmes racisées. Je ne pense pas que nous progresserons tant que ce sera comme ça, que nous progresserons dans la souveraineté sur le travail, dans notre objectif qui est la souveraineté sur le travail. Je pense qu'il faut faire attention dans notre collectif de réflexion globale, le réseau salariat, à pas nous identifier au projet de salaire à la personne. Je pense que le salaire à la personne, c'est une des dimensions de notre combat, hein, qui est un combat qui porte d'abord sur le travail. Ce qui est intéressant aussi bien d'ailleurs dans ce que nous a dit Agathe que dans ce que nous a dit aujourd'hui Bernard, c'est qu'il s'agit de travailleurs, hein, et que alors ensuite, si c'est de la maîtrise sur des formes extrêmement marginales de travail, là aussi, ça ne pourra pas réussir notablement. Il faut vraiment maîtriser le travail dans le cœur de son abstraction capitaliste pour produire une autre abstraction de type communiste. Mais dans cette conquête-là, la lutte contre le patriarcat ou contre les racisations est un élément central. C'est pas du tout c'est un élément central mais qui, je crois, trouve, enfin, n'espérons pas conquérir, vraiment mettre en place une souveraineté populaire sur le travail si nous ne dépassons pas le patriarcat et la racisation.
On t'entend pas, Faïza, ton micro est coupé.
Excusez-moi, je disais, dans les ateliers, à travers les ateliers, il y a une question qui est pas mal récurrente, c'est celle de la conditionnalité des droits. La question qui se pose, c'est que dans ce que tu proposes, Bernard, c'est qu'il y ait une condition, que les droits soient conditionnés à la résidence. Mais la question qui se pose, c'est qu'en est-il des personnes qui française quitte la France pour aller habiter par exemple au Maroc, ou à l'inverse des personnes qui arrivent, comment penser cette conditionnalité dans les mouvements qu'il peut y avoir?
Ben, c'est effectivement une question qu'il faut qu'on approfondisse. Hein. Moi, les réponses que je fais à cette question sont banales, mais pas vraiment mûries suffisamment. Je pense que c'est un droit lié à la résidence, parce que ce droit au salaire, qui peut être, encore une fois, pour lequel on peut réfléchir pour tendre vers un salaire unique. Hein, je n'ai pas d'objection théorique à cette question-là, même d'un point de vue purement, anthropologique. Je pense que le saut anthropologique que nous faisons en attribuant une qualification à une personne suppose que cette qualification soit la même pour tous. Tout comme la bourgeoisie a été capable de faire un saut sur la citoyenneté où les individus qui naissent et demeurent libres et égaux en droit, par rapport à la situation des inégalités dans une société aristocratique, des initiatives de statut, disons, bon, ce saut que nous faisons appelle une unicité de la qualification, certainement. Encore faut-il, comme tu le dis, hein, que les que la domination patriarcale ou la racisation ne trouve pas d'autre chemin que les inégalités salariales qui aujourd'hui la marquent, enfin l'expriment, les expriment, je veux dire. Sauf que j'ai oublié ce pourquoi j'intervenais. C'était, ah oui, c'était le territoire, oui. Donc, bon, des réponses que je fais lorsqu'en vrai, je suis interrogé comme ça en fin de débat ou en cours de débat, pardon, c'est de dire que, bon, des retraités qui décideraient d'aller passer leur vie dans un pays étranger ne relèveraient plus du salaire à la qualification personnelle parce qu'ils n'auraient plus cette contribution, disons, à la vie du territoire, mais qu'en revanche, des salariés qui sont dans des entreprises françaises, mais qui interviennent à l'étranger ponctuellement pour telle ou telle mission, ou tel ou tel accord international, ou telle ou telle division internationale du travail, parce que la division internationale du travail existe et elle peut conduire à aller vivre à l'étranger pendant un certain nombre de temps, eh bien, il relèverait, là je ne sais pas, moi je réponds toujours qu'il relèverait des dispositions françaises, et donc conserveraient leurs qualifications et leurs salaires. Est-ce que c'est de la bonne réponse? Je n'en sais rien. Nous battons contre les directives sur les travailleurs détachés, hein, qui font dépendre les droits des travailleurs de leur pays d'origine. Donc je ne sais pas. Ça, voilà, je suis un peu dans l'embarras. Et là aussi, il faut qu'un groupe international de réseau salarial nous booste sur toutes ces questions-là.
C'est une transition parfaite, Bernard. Merci pour ça. Ouais, parce que c'est aussi un peu l'objet de cette conclusion, c'est aussi de lancer la réflexion collective et avec celles et ceux qui ont envie de se joindre à ça pour essayer d'avancer un peu sur ces questions-là, qui sont des questions effectivement très compliquées, parfois assez techniques, parce que ce que tu viens de dire montre la dimension. Je veux dire, cette réflexion-là, elle existe aussi dans le monde capitaliste, sur comment on fait le détacher des travailleurs. Et on connaît bien les travers. Enfin, on n'en connaît pas bien les travers, à vrai dire. Même dans ce domaine-là, on ne connaît pas très bien les travers. Donc, il y a beaucoup de questions techniques et pas mal de questions politiques aussi qui se posent autour de ça. Moi, je prends l'exemple de nous autres qui vivons quand même dans un tout petit pays et qui dépendent. Forcément, les enjeux d'importation et d'exportation ne sont pas les mêmes. Les enjeux de souveraineté ne sont pas exactement les mêmes que les vôtres pour la souveraineté énergétique, entre autres. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir confronter des choses un peu de base. Et on n'a pas le même héritage historique non plus. Ça nous paraît intéressant de poursuivre la réflexion massivement dans tout un tas de domaines. Et on pourrait aussi même se poser des questions sur le fonctionnement interne de réseau salarial. On a quand même très très peu de gens racisés qui sont membres de réseau salarial, ce qui est quand même... Alors je sais qu'à chaque fois on dit que ce serait bien qu'il y en ait plus, mais peut-être qu'on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle il n'y en a pas plus, plutôt que de vouloir toujours se dire que ce serait bien qu'il y en ait plus. Enfin, il y a toute une série de chantiers qui me paraissent vachement intéressants, et nous on serait très 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 contents de pouvoir poursuivre cette réflexion au-delà de ce qui devait être un petit week-end et qui est devenu un demi-trimestre, quoi, c'était ça un peu l'enjeu de l'organisation de ces automnales autour de la question internationale, c'était et de relancer le groupe international et puis de faire le constat aussi de l'ensemble des, enfin de faire un constat de pas de l'ensemble mais d'une bonne partie des dossiers pendants en matière d'international. Voilà pour ce que moi je voulais dire, mais Faisa devrait sûrement ajouter des choses.
Non, j'ai l'impression que le fait d'avoir pu faire le contour des questions qu'on avait à travailler, c'est déjà une très belle chose, en fait. C'est que vu que maintenant, on n'avait pas du tout pensé la question, maintenant, ben, on se rend compte qu'il y a toute une série de choses sur lesquelles il va falloir vraiment travailler pour pouvoir y amener des propositions et des réponses. Et en ça, j'ai l'impression que l'objectif des autonales est atteint. Mais je trouverais vraiment important que les personnes qui restent encore jusqu'à maintenant puissent un peu donner leur avis. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont assisté à peu près à tout et qui pourraient un peu nous faire un retour de la totalité des autonales et de leur point de vue pour voir si... Je pense que si on voulait rester sur cette thématique-là, il y avait moyen de faire toute l'année, en fait. Parce qu'il y a plein de questions qu'on n'a pas encore abordées et qu'on va devoir aborder. Donc, ça pourrait paraître incomplet. Mais peut-être que ce serait bien que tout le monde... Alors là, je vois qu'il y a Sylvain qui demande la parole, tiens. Sylvain.
Oui. Oui, donc là, j'ai posé une question. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas y répondre, je ne sais pas, mais... Il y avait Stéphane du groupe local Grand Paris, Simard Fernandez, qui avait, dans un mail comme ça, après je lui ai demandé des éclaircissements, je n'ai pas eu de réponse, sur que Christine Jacques, elle proposait, d'après lui, un salaire unique avec plusieurs qualifications. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me répondre là-dessus ou pas. Sinon, au niveau de. Comment dire, des échanges internationaux, etc. De toute façon, à mon avis, au début, c'est sûr que ça serait plutôt, à mon avis, ça serait plus dans un cadre national, alors peut-être le moins longtemps possible, mais je veux dire, ça obligerait de toute façon forcément à une relocalisation de l'économie, ce qui est quand même une bonne chose. Après c'est tout, hein. Moi j'ai pas de mais c'est juste la question, je sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Je sais pas trop ce que ça veut dire un salaire unique avec plusieurs qualifications.
Bon, loin de moi l'idée de parler à la place de Christine Jacques, mais dans les échanges qu'on a eu au sein du groupe Femmes, la conclusion c'était que pour un petit peu diminuer la domination patriarcale, avoir un salaire unique, c'était peut-être un début, uniquement un début. Et que ça, comme ça, ça nous met à l'abri des biais sexistes ou ça, des jurys de qualification. Mais ce n'était pas suffisant. Et la question qui se posait alors, c'était comment finalement reconnaître la qualification des personnes, parce que la question de la reconnaissance était fondamentale aussi dans l'échelle de salaire telle qu'on l'avait comprise. Et c'était d'envisager des jurys de qualification dont la sanction n'est pas salariale, c'est un niveau de qualification qui est établi, quoi. Je ne sais pas si Dorothée, tu veux dire quelque chose. Hein. Non.
Sur la question de la relocalisation, c'est bien, mais ça, il y a plein de trucs qui sont intéressants avec la relocalisation. Il y a aussi plein de. Moi, j'aime bien. Comment dire ça? Ça, c'est un débat que j'aime bien avoir avec mes comparses français parfois, parce que je dirais la relocalisation, c'est un truc qui, si on reste dans la logique d'État-nation, c'est générateur d'énormes disparités, puisque tu peux, à l'échelle de la France, tu peux relocaliser sans doute des choses qui ont été délocalisées. La Belgique, par exemple, n'est plus propriétaire de sa production énergétique ou quasiment pas. Quoi. C'est des multinationales françaises et allemandes qui possèdent toute l'énergie en Belgique. Je veux dire, on pourrait imaginer que ça redevienne des entreprises belges. Mais alors après, ça arrive la question de. Enfin, de nouveau, c'est pas tout ça est fort compliqué. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais à l'échelle du Luxembourg? Qu'est-ce que tu fais à l'échelle de l'Andorre pour la relocalisation? Je ne sais. Je pense que ces questions-là, elles secouent des représentations nationales très fortes. et la logique de la relocalisation. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est quelque chose qui marche très bien en Angleterre, en Allemagne, en France, dans des pays très grands et avec des ressources nombreuses et peut-être parfois aussi un passé colonial florissant. Et que par contre, faire du café français, ça va continuer à être compliqué. Enfin, quoi, peut-être à La Réunion et à la Martinique, on peut faire ça. Mais ça reste, ces questions-là sont excessivement liées à la logique de l'État-nation, d'après moi. Peut-être que moi, je me trompe là-dessus.
Daniel, tu voulais intervenir ?
Oui, merci. Je ne sais pas si je vais y arriver. Sur la question de l'atelier des autonales sur l'international, je pensais qu'on allait plus parler de ce que l'on propose et comment ça peut essaimer dans le monde, dans les autres pays et les échanges avec. Donc apparemment il y a un gros vide là-dedans. Alors moi, instinctivement, il me paraît complètement illusoire de penser qu'on puisse arriver même à capter une certaine partie de la valeur jusqu'à un certain point sans s'en prendre plein la tronche. Et donc, en gros, revenir sur le débat du communisme dans un seul pays, ça me paraît complètement illusoire. Mais bon, ça, c'est personnel. Je ne sais pas après par quel biais on peut imaginer de démarrer quelque chose, mais de significatif dans un seul pays, que ce soit la France. Ensuite, bon, nous partons sur un déjà là. Est-ce que dans d'autres pays, il n'y a pas d'autres déjà là, je ne sais pas s'il y a, il y a certainement pas le même, mais d'autres déjà là qu'on pourrait aller chercher et qui correspondraient, qui colleraient partiellement à notre discours. Sur le plan de la culture, par exemple, je pensais à des pays, par exemple, comme le Mali, qui ont passé le Mali Modibo Keïta, donc qui était quand même faisait partie des dons d'alignés, où il y a quand même une culture qui fait que, eh ben, il est très très mal vu de s'enrichir. Si on dit, ben, s'il y a quelqu'un qui s'enrichit, il y a toute la famille qui vient le voir, mais c'est pas comme une prédation. C'est simplement parce que, culturellement, on ne prend pas plus que les autres. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on pourrait trouver dans un tas de pays où on pourrait arriver à faire entendre, à essaimer, à faire entendre les idées de réseau salariat. Ben, voilà. Enfin, il y a plein de questions comme ça que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été explorées. Et où en tout cas on n'en parle pas, on n'en a pas discuté collectivement, personne ne veut se risquer à se lancer là-dedans, on dirait. Voilà, comment une liste de questions avec laquelle démarrer quelque chose. Voilà, je ne sais pas quoi, comment dire de plus, je ne sais pas si c'est clair.
Je voudrais vraiment remercier pour cette intervention, parce que l'idée de jusqu'à présent, on a plutôt vu donc comment répondre à des questions de l'enjeu international d'un passage dans un seul pays, chose pour lesquelles je suis moi aussi assez réservé, je veux dire, sur sa possibilité. Mais en revanche, non, parce que toutes les questions qu'on a abordées restent tout à fait valables. Mais explorer aussi cet autre aspect, quels sont les déjà là, autres que ceux que nous avons mis en avant s'agissant de pays proches comme la France ou la Belgique, et comment est-ce que ce déjà là peuvent aussi nous enrichir, ou comment est-ce que nous pouvons effectivement chercher des alliances sur la base de déjà là autres que les nôtres. Ça, je crois que c'est très intéressant, ça, vraiment, c'est une très très belle perspective.
Mais dans l'absolu, on pourrait peut-être essayer de rencontrer les apatistes en tant que réseau salarial. Donc là, après la présentation de Bernard, les apatistes vont arriver. Ils seront à Bruxelles et à Liège. Je ne sais plus si c'est en mai ou en juin. Et on pourrait très bien proposer, parce que je reçois les mails aussi du groupe de préparation, un atelier sur ça. C'est comparer le déjà-là français et le déjà-là apatiste sur les modes de socialisation.
Oui, bien sûr, oui. C'est très intéressant, oui.
Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Bon, il n'y a personne.
Enfin, je voudrais dire que, mais c'est pour faire un passage de relais, hein, que si le conseil de coordination du week-end prochain le valide, ça reste soumis à cette validation, les prochaines saisonnales seraient en Lorraine le jeudi 12 et le vendredi 13 mai, donc le pont de l'Ascension. Sur la sécurité sociale de la culture, pour que il y a déjà une réflexion très avancée sur la sécurité sociale de l'alimentation dans le réseau, mais pour que on puisse avancer de manière également plus significative qu'elle ne l'est aujourd'hui, la réflexion sur la sécurité sociale de la culture dans le réseau.
Grand, merci Bernard pour cette pour ce teasing des prochaines saisonnales, d'être venu répondre à cette, dans le traquenard que tu as attendu et dont tu nous avais bien averti que ce serait, que tu avais bien compris que c'était un traquenard et que tu es quand même venu. Merci pour ça. Et merci à tous et toutes, et en particulier aux grands fidèles, puisqu'il y en a plusieurs qui ont assisté à quasiment tous les week-ends, ce qui n'était pas notre choix à la base, mais on a fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est comme ça qu'on dit. Et on vous remercie de nous avoir accompagnés là-dedans parce qu'on était quand même très très frustrés de ne pas pouvoir vous recevoir en vrai chez nous. Et de vous, et on reste très frustrés de ne pas pouvoir se voir en vrai. Mais c'est comme ça. Et voilà. Donc les vidéos, donc pour que vous sachiez, pour l'instant, toutes les vidéos des ateliers précédents sont toujours disponibles sur le forum. Je vais voir si peut-être on trouve un moyen de le rapatrier sur le réseau salariat. Ça, je m'occupe de ça. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, il me faut juste quelques jours, mais vous l'aurez, je pense, en milieu de semaine pour celles et ceux qui ont raté le début ou une partie de la présentation de Bernard Duterme. On va trouver un moyen de continuer à partager ce que j'ai appelé, ce qu'on a appelé, la table de lecture. Donc, il y a les liens. On s'est échangé collectivement depuis le début de ces automnales. Donc, c'est un peu le bazar, mais peut-être qu'on peut essayer de ranger un peu ça, comme sur une bonne table de lecture. Et puis voilà. Et puis le groupe international existe. Il a une adresse dans la liste qui doit être certainement, je parle sous le contrôle de celles, mais ça doit être international@reseau-salariat.info. Donc, n'hésitez pas à contacter le groupe international.
Juste avant de clore, on devra, comme pour toutes les autres saisonnales, faire un genre de compte-rendu des échanges qu'il y a eu. Si les personnes qui ont assisté souhaitent nous aider à faire ce compte-rendu, elles peuvent se manifester auprès de nous pour ne pas qu'on soit plusieurs à travailler dessus, c'est très bien. Merci.
Ben merci, un très très grand merci au groupe belge pour son organisation de ces automnales.
Et moi je réitère mes merci à toi Bernard et puis à toutes celles et tous ceux qui ont animé des ateliers, tous les membres de Réseau Salarié qui ont animé des ateliers, parce que c'est aussi vraiment grâce à vous qu'on a pu faire tout ça.
Au revoir.
Au revoir.